Vous écoutez RTL.
Place aux curieux, un gars, une fille, c'est Thomas et Sidonie. Ouais.
Chouchou et Loulou, c'est nos nouveaux surnoms.
Allez, bien, ça allez
Stéphane. Stéphane et Quentin.
Les engueulades en moins.
C'était votre duo, Stéphane et Quentin, c'était mignon aussi. Alors, on va pister les grands prédateurs, aigle, loup, panthère, ours, comment les repérer, les suivre, comment établir le contact avec eux, c'est ce qu'on va découvrir vers 14h30 sur RTL.
Et tout de suite, dans la curiosité, bienvenue au Portugal, bienvenue à Lisbonne.
La curiosité est un vilain défaut.
Que la vie est douce dans mes échappées belles lorsque je pars en week-end dans une ville vivante et attachante comme Lisbonne et que je peux en plus vous emmener avec moi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Située sur l'estuaire du Tage, Lisbonne est vraiment une petite perle de l'Atlantique.
RTL.
Mais pour l'heure, bem-vindos à Lisboa.
Si votre défaut c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Bom dia, bonjour à tous, c'est la curiosité sur RTL, ce bon moment où l'on découvre ensemble des histoires, des destins, des coulisses, des secrets avec gourmandise et bonne humeur et surtout des accents extraordinaires, n'est-ce pas Thomas?
Bonjour Zé.
Après le portugais, moi, un petit anglais
non,
quand même.
Non, je ne vais pas me risquer au portugais, sûrement pas. Hello curious, tu vois, ça c'est en anglais. Salut les curieux. Allez, ici on se passionne pour tout, vous le savez, la science, l'espace, les grands destins, l'histoire, la nature, l'aventure, les accents étrangers et donc le voyage.
Comme celui qui va nous mener au Portugal, à Lisbonne, la ville européenne chouchou des Français. Bonjour Sophie Jovillard.
Bonjour
à tous. C'est un plaisir de vous retrouver au micro de la curiosité.
Ça va très bien.
Vous êtes journaliste et animatrice du magazine Échappée Belle sur France 5. Et pour ce nouveau numéro qu'on va découvrir samedi 5 mai à 20h15, vous vous êtes baladée. À 20h50, pardon. Oui. Vous êtes baladée, parce que moi je suis devant ma télé dès 20h15.
Mais j'espère bien,
si Denis. J'ai tellement peur de vous
c'est
rater.
C'est pour ça qu'on met un teaser rien que pour vous, pour vous annoncer où on va
mais
à 20h15.
J'adore. Vous me connaissez
donc
bien.
La chaîne c'est France 5 et l'horaire 20h50.
Exactement.
Là on est bien.
Et donc vous êtes baladé pour nous, pour notre plus grand plaisir dans la ville, aux 7 collines. On va se faire un petit plan déjà pour savoir exactement où on est. On se trouve où se trouve exactement Lisbonne si on regarde une carte du Portugal, en sachant que c'est vraiment un pays tout en longueur.
Oui exactement, je disais tout à l'heure que c'est vraiment une petite perle de l'Atlantique puisqu'on est à l'ouest de l'Europe, hein, c'est la plus grande ville du pays. On est sur la rive droite de l'estuaire du Tage, entre l'océan Atlantique et la mer de Paille, le Tage. On appelle le Tage comme ça à l'estuaire parce que le soir au coucher du soleil, le Tage brille et c'est absolument magique. C'est vraiment une situation géographique idéale et on en reparlera, on comprendra pourquoi ça a servi le Portugal, cette situation
donc,
géographique.
C'est vraiment Lisbonne, une ville tournée vers la mer, oui. Vers l'eau. Avec quel climat tout au long de l'année?
Il fait assez doux à Lisbonne. On parle même d'un climat méditerranéen, figurez-vous. Là en ce moment, il fait très doux en cette période de l'année. En hiver, les hivers sont assez doux. Il faut faire attention quand même à l'influence maritime hein, qui vient de l'océan Atlantique. Il peut faire un peu froid l'hiver. Idéalement, il faut y aller maintenant à Lisbonne. Moi, c'est ce que je vous conseillerais.
C'est une grande ville. Il y a combien d'habitants à Lisbonne?
Alors, à Lisbonne, on compte intramuros à peu près 547 000 habitants. Mais il faut penser au grand Lisbonne. Hein, puisque si le centre-ville est un peu moins fréquenté et en baisse de fréquentation de la population, le grand Lisbonne compte un peu plus de 2 millions d'habitants. Donc, c'est une grosse ville, mais une petite ville si on reste au cœur de la cité.
Alors, une petite ville qui fait rêver beaucoup les Français, je découvre qu'elle est dans le top 10 des destinations préférées des Français pour les ponts du mois de mai, notamment.
Oui, et surtout pour les retraités, figurez-vous, parce que je vous parlais de la qualité de vie à Lisbonne, mais il y a aussi un intérêt particulier, c'est que c'est un pays qui est fiscalement très attractif. Les pensions de retraite sont exonérées d'impôts pendant 10 ans, donc j'ai très envie, moi, d'être
à
en
la
retraite
déjà,
anticipée.
C'est un peu jeune, parce que
vous avez repéré la petite maison.
Voilà,
déjà,
ça approche à grands pas, figurez-vous. Vous parliez de maisons, mais j'ai repéré des appartements qui peuvent être vendus, des trois pièces, à 250 000 euros dans le cœur de Lisbonne. Imaginez ça, à Paris, on n'aurait pas un trois pièces.
Vous êtes la Plaza de France 5. Maintenant,
c'est exactement. Je vais monter un nouveau concept d'émission sur France 5. Ouais. Non, mais il fait bon vide, je vous l'ai dit, c'est pas trop cher. Quand on est retraité français, on peut s'y installer sans aucun problème. Le régime fiscal est vraiment très simple. Si on peut, bien sûr, je conseille plutôt d'acheter que de louer si on veut s'installer là-bas. On estime qu'un Français retraité qui s'installerait à Lisbonne aujourd'hui pourrait voir sa qualité de vie, son pouvoir d'achat multiplié par 3, figurez-vous. Ouais. Donc il faut vraiment penser à Lisbonne pour sa retraite.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui y ont pensé. En 4 ans, 50 000 Français, dont 80% de retraités s'y sont installés. Alors, je crois que le surnom de Lisbonne, c'est la ville aux 7 collines, c'est ce qu'on disait. Pourquoi ? Il y a vraiment 7 collines ?
Alors, il y a 7 collines et une de mes guides me disait même qu'il y avait 8 collines. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'y aller.
Hein,
compter. Voilà.
Et vous les comptez.
Voilà, vous, exactement, vous y allez, vous les comptez. C'est vrai qu'il y a une topographie quand même assez atypique à Lisbonne. En fait, Lisbonne avait envie d'être une ville sainte comme Rome, donc c'est pour ça qu'on l'a surnommée la ville aux sept collines. Mais c'est vrai que ça,
chaque colline, c'est un quartier.
En témoigne, oui. Chaque quartier est un, chaque montagne, chaque colline est un quartier, ouais. Dont le fameux quartier de l'Alfama, par exemple, qui est une des collines.
Alors, quelle est la caractéristique de ce quartier? Quelle est l'âme de l'Alfama? On entend souvent parler, on ne sait pas forcément ce qu'on sait si on n'y a jamais mis les pieds.
Oui,
bien
c'est
sûr.
C'est l'âme de Lisbonne, comme vous disiez. C'est le cœur battant de la capitale. C'est un ancien quartier de marins et de pêcheurs. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier du Panier, par exemple, à Marseille.
Oui.
Eh bien, il y a cette âme-là, vous voyez, cette âme qui est restée. On voit encore
c'est
du
populaire,
linge.
Ouais, c'est vrai,
très authentique. Ouais. On voit encore du linge aux fenêtres. Comme en Corse, par exemple, on voit des dames qui observent à travers les fenêtres, les gens qui passent dans la. Voilà, c'est ça. Il y a le fameux tram 28 qui traverse ce quartier. Et c'est vraiment un quartier qui a une âme particulière avec ses escaliers, ses petites rues tordues et tout ça. C'est très beau.
Moi, ça vous plaît en tout cas.
Ouais, j'aime beaucoup ce quartier. Envie d'y aller. Ça vient d'où le nom?
Alors, c'est un mot.
C'est quoi?
Alfama, ça veut dire les mille sources. C'est Alfa Mara, c'est un mot arabe.
Donc ça signe l'influence arabe qui oui. a existé dans ce pays.
L'influence maure, bien sûr, qui est très très importante à Lisbonne, puisque Lisbonne a été prise par les maures en 719. Mm-hmm. Les maures, c'était les musulmans du nord et de l'Afrique, pardon, et du Proche-Orient
qui sont passés en Corse aussi, évidemment.
Qui sont passés exactement, qui sont venus construire des mosquées, des habitations et des murailles, vestiges qu'on retrouve encore dans quelques quartiers de l'Alfama. Et il va falloir attendre la Reconquête, la grande période qu'on appelle la Reconquête en 1147, où les Portugais avec des Français, des Anglais vont reconquérir et vont christianiser à nouveau Lisbonne et le Portugal.
Lisbonne, une ville tournée vers la mer qui a deux rives et un immense pont indestructible pour les relier. On vous raconte pourquoi. A tout de suite sur RTL Les Curieux.
La curiosité est un vilain défaut.
Construite sur l'estuaire du Tage, là où le fleuve se jette dans l'Atlantique, Lisbonne regarde vers l'océan.
RTL.
Tour à tour port d'escale pour les navigateurs ou comptoir maritime entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, l'activité de la capitale est tournée vers la mer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les Lisboètes sont des marins dans l'âme. Au XVe siècle, leurs caravelles partent depuis le Tage explorer le continent africain. Puis plus tard, les Indes.
Si votre défaut, c'est la curiosité, alors vous êtes bien sur RTL.
Selon un sondage récent, elle est dans le top 10 des destinations préférées des Français pour les ponts du mois de mai, mais aussi et surtout pour la retraite. Ça nous a donné envie d'explorer Lisbonne avec la journaliste Sophie Jovillard du magazine de France 5, Échappée Belle. Lisbonne, on vient de l'entendre, il y a toute une histoire, Lisbonne, ville tournée vers la mer. Et donc, on va évoquer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette organisation de l'espace, ce fleuve, l'estuaire du fleuve. Et c'est quoi? C'est l'âge d'or de Lisbonne? On est au Moyen-Âge, au 15e siècle,
on
c'est
est
ça
au 15e et au 16e siècle. Oui. En effet, vous le disiez, Lisbonne a une position géographique, une situation géographique très, très intéressante sur le Tage. L'estuaire vraiment du Tage, donc on peut partir, conquérir le monde en traversant l'océan Atlantique. Et vraiment l'âge d'or, c'est le 16e, mais également le 15e, puisque la ville va vraiment s'imposer comme le centre névralgique du commerce, avec les grandes expéditions maritimes, les grandes découvertes qui vont commencer dès le 15e siècle. Les Portugais vont passer pour les maîtres de l'art de la navigation et de la cartographie. Alors bien évidemment, on parle de Vasco de Gama, qui va ouvrir les routes de l'Inde, qui va être le premier Européen à arriver aux Indes par voie maritime, en contournant le cap de Bonne-Espérance. Ils vont revenir avec des bateaux chargés d'épices.
C'est quoi le commerce?
D'épices, de pierres précieuses,
des soieries aussi,
de textiles, ouais. Exactement, de riz pour certains.
Ça veut dire qu'à cette époque, Lisbonne devient la capitale européenne, c'est la capitale la plus riche, celle vers laquelle tous les yeux sont tournés?
Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que ces expéditions sont vraiment vécues comme un événement. Alors on raconte par exemple que Vasco de Gama, avec son équipage, en partant en 1497 pour les Indes, va se recueillir au monastère des Hiéronymites, qui est un endroit absolument extraordinaire, qui se visite bien sûr encore aujourd'hui. Mais la population est en liesse, accompagne tout le monde sur les quais pour voir partir ces caravelles. Ils partent et on ne sait pas s'ils vont revenir. Oui. Donc c'est un événement. Alors certains n'aiment pas trop qu'on parle de cette époque-là, je peux les comprendre. Il y a des côtés négatifs à ces ces expéditions. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que ça fait partie de l'histoire de Lisbonne, une histoire incroyable.
Ouais, j'ai eu la chance de visiter Lisbonne. Il y a un monument qui est assez impressionnant et qui symbolise cette histoire maritime de Lisbonne. Vous pouvez nous le décrire, ce monument ?
Alors, je pense que vous faites référence à la tour de Belém.
Oui, c'est ça.
Hein,
ouais.
C'est ça. La tour de Belém, c'est vraiment la porte maritime qui est la porte symbolique de la ville, qui est édifiée pour marquer un point d'entrée et un point de sortie de Lisbonne sur le Tage. C'est une tour de contrôle au milieu du Tage où on attendait les caravelles chargées qui rentraient justement de ces expéditions. Et puis en même temps, on était un peu inquiets en les voyant partir. Il y a une architecture, ce qu'on appelle un style architectural manuélien, hein, de Manuel Ier, qui a la même architecture que le monastère des Hieronymites dont je vous parlais à l'instant.
Donc c'est un roi du 15e, c'est ça ?
Oui, à peu près. Ouais. Et c'est vrai qu'il marque l'architecture absolue de Lisbonne. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il était cette tour était au milieu du Tage, on a vraiment l'impression que c'est sur le bord du Tage, puisque les choses ont beaucoup changé là-bas.
Sophie Jovière, elle est incroyable cette ville, parce qu'elle est tournée vers la mer, elle est aussi fendue par un fleuve, le fameux Tage. Ça veut dire que c'est une ville qui a deux rives, deux ambiances, deux types de lisboètes différents qui vivent différemment.
Oui, alors la ville est vraiment plutôt sur la rive droite du Tage.
Donc, au nord, quand on regarde une carte.
Exactement.
Ça
ouais. Donc il y a quand même des ponts qui permettent d'enjamber le Tage, parce que c'est quand même assez impressionnant de traverser le Tage et son estuaire. Et il y a deux ponts qui sont absolument emblématiques. C'est le pont Vasco de Gama, qui est vraiment qui fend cette colonne vertébrale qui est le Tage. Alors, il a battu tous les records, hein, ce pont. 13 km de long, 8 km au-dessus de l'eau. C'est une prouesse technique qui, malheureusement, a coûté la ville à quelques ouvriers qui ont travaillé sur le chantier.
Et qui est indestructible, ce pont, c'est
Alors, oui, qui est indestructible pour une raison très particulière, parce que Lisbonne a souvent été victime de séismes. Donc, en fait, il est très flexible et il a été conçu pour résister aux tremblements de terre.
Il y a eu des tremblements de terre majeurs dans l'histoire de Lisbonne, 1755 notamment.
Exactement,
c'est
celui qui a vraiment marqué l'histoire de Lisbonne. Un séisme qui a eu lieu le 1er novembre 1755. La ville a été complètement détruite par ce tremblement de terre. Tout ça a été suivi d'un raz-de-marée, d'incendies. Je crois qu'on a dénombré près de 60 000, 90 000 morts. Donc ça a été vraiment une catastrophe. La ville a été détruite à près de 85%. Donc autant dire qu'il y a eu énormément de travaux pour reconstruire Lisbonne, qui était une ville complètement détruite après ce séisme.
Alors est-ce qu'on écoute encore ça à Lisbonne ?
No castelo, ponho um cotovelo.
C'est du Fanon, évidemment. C'est triste, c'est beau. On vous raconte son histoire dans un instant sur RTL.
Desfaço um novelo.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Lisbonne n'a plus de secret pour nous avec notre guide Sophie Jovière qui est partie la découvrir pour Échapper belle sur France 5 à découvrir. Samedi prochain, ce sera à 20h50. On évoquait les nombreux tremblements de terre et notamment ce mythique tremblement de terre de 1755 qui a cassé la moitié de la ville. Mais la ville s'est reconstruite et ce qui est fabuleux, c'est que les Lisboètes ont su tirer un art de ce fracas. Qu'est-ce qu'ils ont inventé ? Qu'est-ce qu'on voit au sol encore aujourd'hui qui rappelle ces tremblements de terre ?
Eh bien, on voit la fameuse chaussée portugaise, la calçada, et c'est vraiment un art, vous avez raison, Sidonie. C'est un savoir-faire hors du commun où il reste très peu d'artisans qui savent faire ça aujourd'hui à Lisbonne. Alors, ils utilisent des petites pierres calcaires, enfin des petits morceaux de calcaire noir et blanc.
Donc de débris faire, de...
Voilà, alors, la légende raconte qu'on aurait utilisé les débris des tremblements de terre pour reconstruire la chaussée.
D'accord.
Aujourd'hui, on utilise vraiment ce calcaire blanc et ce calcaire noir qui donne vraiment une chaussée très particulière avec des dessins, des fresques, quelques messages parfois. J'en ai même vu certaines colorées, c'est assez rare, avec des papillons, mais ça reste noir et blanc. C'est vraiment très très beau. Et comme bien Lisbonne s'admire vue d'en haut, vous tomberez toujours sur une place comme ça faite en calçada portugaise, c'est absolument magnifique et une fois de plus, c'est un savoir-faire extraordinaire.
Et dans les rues de Lisbonne, on entend forcément un peu de fado.
Ma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa, e
Cette voix, Sophie Jolivet, on ne l'a pas choisie par hasard.
Ouais, c'est Amalia.
Amalia Rodriguez, c'est la c'est grande la... papesse du genre, ouais, la reine du fado.
Ouais, c'est la reine du fado, c'est Amalia Rodriguez, c'est la plus belle voix de fado et c'est la plus belle ambassadrice aussi du fado partout dans le monde, puisqu'elle a permis au fado de voyager et de dépasser les frontières de Lisbonne.
Ça raconte quoi le fado?
Le fado, vous le disiez tout à l'heure, c'est ni triste ni gay, c'est l'âme des Lisboètes, c'est l'âme du Portugal.
Ça raconte leur vie quotidienne, oui. Par exemple, aux Lisboètes, ces chants du fado?
Oui, ça raconte le quotidien, ça raconte la saudade, ce sentiment un peu nostalgique. D'ailleurs, je demandais à une des personnes que j'ai rencontrées lors de ce voyage si cette saudade qu'on retrouve dans le fado se retrouvait dans le caractère des Lisboètes. Et cette personne qui conduit un tuk-tuk dans Lisbonne me disait, oui, un petit peu, parce que pour savoir être heureux, il faut avoir été un petit peu triste, parce que comme ça, on comprend le bonheur si on était un petit peu malheureux. Dans la vie.
Que c'est lié à la mer aussi, aux marins qui s'en vont, aux familles qui restent à quai.
Exactement.
Il y a cette nostalgie, cette tristesse, il y a ce manque.
Oui, et puis il y a cette voix un petit peu tremblotante, comme ça, où vraiment on est toujours un petit peu triste, mais heureux de se retrouver malgré tout. Non, c'est très beau, moi. Moi, j'aime beaucoup le fado et il y a des jeunes artistes encore aujourd'hui qui chantent le fado. Il n'y a pas qu'Amalia. Amalia, c'est vraiment, on le disait, la reine, mais il y a des jeunes femmes maintenant qui reprennent.
Et que des femmes?
Beaucoup de femmes chantent. Je trouve que. Bon, je ne vais pas me faire des amis, mais je trouve que les plus belles voix du fado sont les voix féminines. Alors, c'est un art de l'improvisation aussi, donc les hommes se lancent dans le fado, il n'y a aucun problème, mais je trouve que c'est les femmes qui portent le mieux le fado.
Bon, les filles, vous êtes bien gentilles, mais moi j'ai
Merci.
Faim.
Merci.
Ah oui, alors...
Une bonne petite... réflexion de mec.
Une morue, pour la deux, là.
Qu'est-ce qu'on mange à Lisbonne, Sophie Jolivet?
Eh bien, on mange de la morue, monsieur.
Allez, elle est bien belle.
Mettez-y les doigts, si vous voulez.
Ravi, j'adore.
Alors, la morue, forcément, j'ai envie de dire... La fameuse bacalao, qui est la morue séchée, qu'il faut dessaler pour pouvoir la consommer. C'est vraiment très très bon. Alors j'arrive de Norvège et j'ai appris en Norvège qu'elle était pêchée au large de la Norvège et elle revient au Portugal.
Ah oui.
Et oui, elle n'est pas pêchée du tout au large du Portugal,
elle est
la bacalao. On la redescend. On la redescend, elle est vraiment pêchée là-bas et elle est salée pour être conservée. Donc voilà, elle se cuisine de toutes les façons, la bacalao, c'est absolument délicieux.
Ça, c'est le plat numéro 1. Enfin, il faut goûter ça.
Absolument,
à Lisbonne.
Absolument.
Et ensuite?
Alors ensuite...
En dessert.
Tout de suite, on passe au dessert.
Mais moi, je veux un deuxième plat.
Arroz de marisco, qui est vraiment le riz aux fruits de mer. Là, c'est très très bon. Il y a des crevettes, des langoustes, des moules, des palourdes. Il y a des bons plats aussi qui sont grillés. Poisson grillé, viande grillée, ça c'est délicieux. Et j'arrive au dessert, il faut goûter le riz au lait. Le riz au lait.
Est-ce qu'il est différent du riz au lait qu'on peut faire ici?
Il est meilleur parce qu'on voyage pour le goûter, donc il est meilleur.
Ah oui.
Je suis d'accord avec vous. Quand on goûte quelque chose dans le pays, on trouve ça délicieux. Et parfois, quand on le ramène, on le rapporte en France.
Et quand on essaye de le faire à la maison, de refaire la recette, c'est une catastrophe.
Parce que, par exemple, il y a les.
Pastel de nata.
Voilà.
Mais oui.
Alors, il faut les décrire pour ceux qui ne connaîtraient pas. C'est des petits gâteaux.
C'est plus qu'un petit gâteau. C'est un flan pâtissier, en fait, qui est dans une pâte feuilletée, qui se déguste tiède. Ça a été inventé au 18e, dit-on, par les sœurs qui habitaient le monastère des Hiéronymites dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut le saupoudrer d'un peu de cannelle. C'est délicieux.
C'est pour ça que vous voulez arriver au dessert assez vite.
Pour ceux qui n'ont pas la chance de voyager et qui habitent Paris ou qui passent Paris, dans le 17e arrondissement, au Batignolles, il y a une boulangerie, un pâtissier qui fait des pastéis, des natas qui sont délicieuses.
On a une porte de Saint-Cloud aussi.
Vous arrêtez avec vos adresses là. parce que si, Denis, vous avez parlé du tramway tout à l'heure, il faut qu'on en parle de ce tramway.
Ah oui, je ne peux pas vous quitter sans vous parler du tram 28. J'ai rencontré Miguel, qui est un conducteur du 28. C'est un transport public qui fait toute la zone touristique de Lisbonne. Alors, le réseau des trams à Lisbonne apparaît en 1873. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'était des trams hippomobiles tractés par des chevaux. Ouais. Le tram électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date de 1901. Il y a 5 lignes de tram aujourd'hui à Lisbonne. Il y a 50 tramways en tout et 48 km de lignes. Et ce tram 28, vous ne pouvez pas le rater. Il est jaune, il est absolument magnifique. Il faut absolument grimper à bord.
Quel quelques bons conseils encore de notre invitée globe-trotteuse pour savourer au mieux Lisbonne, ce sera dans un instant. Et dans la seconde partie de l'émission de la curiosité, on ira pister des animaux sauvages. Restez avec nous sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Chaque matin, François Langlais est à nos côtés pour vous faire comprendre l'économie.
L'Angleco.
Le PIB, ça n'est jamais qu'une photographie d'un an d'économie française.
Rendre l'économie concrète et accessible, c'est le défi quotidien de François Langlais.
Dès que l'emploi ou le pouvoir d'achat augmente, notre demande à l'étranger progresse.
Merci François, on vous retrouve chaque matin à 7h40 sur RTL.
RTL.
Lisbonne est sans aucun doute la capitale européenne qui respire le plus le vent du large.
La curiosité est un vilain défaut.
La ville aux sept collines étire ses flancs sur les bords du Tage et ressemble à un labyrinthe multicolore composé de toits roses et de façades ocre jaune.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ville historique par excellence, Lisbonne est une métropole en pleine mutation. Elle n'hésite pas, depuis une grosse décennie, à se redonner une image moderne et un look futuriste.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Lisbonne part sans but au loin et au hasard.
Avec Charles Aznavour qui chante Lisboa, Lisbonne dans l'œil de notre curiosité avec la journaliste Sophie Jovia. Vous nous avez dit que l'idéal c'était d'y aller au printemps, même si c'est une ville qui se visite toute l'année parce qu'il y a toujours un climat assez doux tourné vers l'Atlantique. Est-ce que c'est facile de s'y repérer, de s'y déplacer? C'est une ville qui s'appréhende facilement?
Oui, oui, c'est une ville qui est très facile parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est une ville de quartier, de petits villages si j'ose dire, hein, puisqu'il y a des ambiances de petits villages dans ces quartiers, qu'on aille au Barrio Alto, à l'Alfama, à Belém, etc.
Donc on fait tout à pied en trombe, quoi.
Alors, on fait tout à pied, mais attention, vous vous souvenez, on a dit la ville des sept collines, on aurait peut-être huit, ça grimpe, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les ascenseurs qui sont à disposition, il y en a des absolument sublimes, les funiculaires et vos baskets. Hein. Allez-y en basket. Il y a également des tuk-tuk, ça c'est nouveau dans les rues de Lisbonne. Donc non, entre le tram, les tuk-tuk et vos pieds, vous devriez
y aller. En plus, ce sera bon pour la santé. Tiens, un mot de ce hors-série du magazine Détour en France. C'est un nouveau numéro d'Échappée Belle, c'est ça, version papier?
Exactement, exactement. C'est vraiment un magazine hors-série qu'on va pouvoir retrouver dans les kiosques dès demain. On en est très fiers avec toute l'équipe d'Échappée Belle puisque c'est la première fois qu'on se retrouve pour donner nos bons conseils. On a choisi la Corse avec Détour en France. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une des
paradis à portée de main. Ouais.
Voilà, les plus accessibles quand on part en vacances.
Et puis votre Échappée Belle à découvrir samedi prochain à 20h50 sur France 5. Sur Lisbonne. C'est un bonheur de vous avoir, d'avoir voyagé avec vous.
Plaisir partagé.
À très bientôt.
Mille fois pour votre accueil.
Bon vent. Vous écoutez RTL.